Marcher, encore et toujours. Marcher pour aller à la rencontre des autres, mais surtout marcher afin d'arriver à la plus grande des rencontres, celle de soi. Pour Sophie Champeau, fondatrice de l'association normande Les Pas de Sceaux, être acteur de sa santé, c'est surtout être bien avec soi-même afin de mieux aider autrui. Cette rencontre avec elle-même, Sophie l'a expérimentée sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle alors qu'elle est à un tournant de sa vie. Comment a-t-elle décidé par la suite de s'investir pour aider les autres, et en particulier ceux qui souffrent? C'est ce qu'elle me raconte avec Ingrid Prampin, bénévole au sein de l'association. Bonne écoute. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sous le soleil de Caen aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Normand. Bonjour Sophie Champeau.
Bonjour Ryan.
Comment t'allais? Comment vas-tu?
Je vais bien, je vais très bien.
Je dois le dire, tu nous as conviés dans un super décor. On le dit parce que dans le podcast Normand, c'est toujours bien d'être reçu dans de super décors. On a un magnifique jardin. On est où exactement?
Eh bien, nous sommes en plein cœur du centre-ville de Caen, chez des amis, chez qui je suis, là, façon provisoire. Voilà, je loue une maison chez eux.
Tu es la fondatrice de l'association sur les pas de sceaux. Tu vas nous en parler puisque c'est l'objet de cet entretien. Cette association que tu as fondée en 2015, bientôt 8 ans. D'ailleurs, quand l'épisode sera diffusé, le 10 décembre, ça fera quasiment pile 8 ans que cette association a été fondée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à fonder cette association, sachant que c'est ce que tu mets hein, sur ton site, je te lis sur le site sur les pas de sceaux, la vie est un chemin sinueux avec des pentes douces et d'autres bien raides. En partant 12 jours sur le chemin de Compostelle pour évacuer, comprendre et trouver un sens à la sienne, Sophie a rencontré des femmes et des hommes le temps d'une journée, de 2 jours, à se perdre et se retrouver, et des échanges particuliers en sont nés. Alors, pour aller plus loin dans ce que je viens de lire, qu'est-ce qui t'a motivé, au-delà de ça, à fonder cette association?
Eh bien, comme tu le lisais, j'ai en fait, en 2014, dans une situation délicate pour ma vie qui a fait que je suis partie de chez moi avec ma valise.
D'accord.
Pour ne pas me perdre, descendre dans des profondeurs psychologiques difficiles à remonter, j'ai été accompagnée par des amis, par mes enfants, pour partir sur le chemin de Compostelle. Je ne pouvais pas faire les 1300 kilomètres qui unissent le Puy-en-Velay à Saint-Jacques, mais j'avais fait le choix de partir 2 semaines, de faire 300 kilomètres toute seule, et ça pour essayer de me retrouver avec moi-même déjà. Donc ça a été un an de préparation, de mai 2014 à mai 2015. Et quand je suis partie sur ce chemin, est née cette idée d'emmener des hommes et des femmes sur un petit Compostelle normand qu'on allait créer ensemble en fait. Et ça pour soutenir la recherche en santé. Parce que pour moi, je pense, et je pense que ce n'est pas que moi qui le pense, c'est que si on est acteur de sa santé, si on est dans la prévention, eh bien, on peut plus facilement passer les étapes difficiles de la vie, parce que la vie, c'est ça, ce n'est pas un long fleuve tranquille.
Mais quand tu dis « on est acteur de sa santé », tu parles sur quel plan? On est acteur de sa santé personnelle ou on peut aussi être acteur de quelque chose de plus grand que nous, comme un domaine de santé publique, par exemple.
Exactement. C'est-à-dire que il y a déjà être bien, quand on est bien avec soi-même, on est forcément mieux avec les autres. Donc c'était aussi pour moi-même, c'était ce chemin-là que je souhaitais parcourir. Et le chemin est parfois assez long.
Bien sûr.
Quand on est bien avec soi, on peut plus facilement accompagner les autres, être aussi des aidants. Et puis être bien, je dirais, dans la transmission aussi de quelque chose, voilà, qui va permettre à chacun de trouver son propre chemin. Je ne sais pas si je suis claire avec ce que...
J'ai tout à fait compris et je pense que tout le monde aura bien reçu ce message. J'ai envie de te demander pourquoi spécifiquement le domaine de la santé? Qu'est-ce qui te touche particulièrement dans ce domaine-là?
Je suis maman de 4 enfants qui sont aujourd'hui adultes, et j'ai la chance d'être grand-mère de 3 petits-fils.
Félicitations.
Et il me dirait que j'étais certainement une maman poule et à la fois, en leur donnant leur liberté, avoir souvent peur pour eux.
Les mamans poules.
C'est ça. Et ça, avoir souvent peur pour eux, plus que pour moi-même. Mais pour autant, je pense que c'est parti de là. Je pense que c'est en moi, quoi. Je sais pas comment expliquer.
Et donc, en fait, parce que j'essaie de retracer un petit peu le fil chronologique, tu commences une marche partant du Puy-en-Velay, c'est ça?
Oui.
Vers donc Saint-Jacques-de-Compostelle, la route de Compostelle. À partir de là, donc, tu me dis, tu pars toute seule.
Oui.
Et donc, ce cheminement-là, tu fais la rencontre de personnes, comme on en fait souvent à Compostelle, et c'est à partir de là, en rencontrant ces personnes en particulier, que l'idée a commencé à germer?
Alors, l'idée, elle a germé la
Selon
première
les débuts
rencontre.
2015.
Oui. Donc, la première rencontre, tout simplement, c'est que j'arrive au puits et la veille, je sais pas où je vais dormir. Il est 4 heures d'après-midi, j'ai toujours pas réservé mon lieu d'hébergement. J'ai le miam miam dodo que mon fils aîné m'avait mis dans mon sac à dos, que mes enfants m'avaient offert d'ailleurs, je peux le dire. Et donc je prends le premier lieu qui m'inspire, qui est un ancien dortoir. Et là je suis accueillie avec je sais pas combien de personnes nous sommes, une trentaine peut-être, à dormir dans ce lieu. Et le lendemain matin, donc à 7 heures, nous nous retrouvons avec d'autres pèlerins, évidemment. Donc, c'est pas une église,
il y a une discussion qui s'engage.
C'est pas la cathédrale au Puy, c'est une abbatiale.
C'est une abbatiale, oui.
Oui, l'abbatiale du Puy. Voilà, l'abbatiale du Puy. Et donc, on a une bénédiction, tous ensemble. Alors, je ne suis pas croyante, voilà, et on va pas parler de ça, mais. Voilà, on est tous accueillis ensemble. Et là, il y a un homme qui vient vers moi et qui me dit, voilà, je devais partir avec une amie, elle est tombée malade. Et moi, je pars parce que je suis en train de perdre la vue. Je suis atteinte d'un cancer et qui me fait perdre la vue. Et donc, j'aimerais qu'une femme fasse les premiers pas avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ces premiers pas avec moi? Et lui, il avait son guide, Yves. Yves est très important dans l'histoire des Patso. Donc, et je lui dis, mais avec grand plaisir, quoi. Et donc, on a marché pendant une journée et demie ensemble, à raconter des choses plus ou moins intimes, quand même, sur nos parcours.
Mais justement, est-ce que quand on marche avec quelqu'un comme ça, qui est quand même, à mon sens, hein, pour moi, je le vis comme ça, quelque chose quand même de physique? Est-ce que c'est des conditions plus propices pour créer une discussion peut-être plus intime avec une personne qu'on ne connaît pas de prime abord?
C'est tout le bénéfice de la randonnée sur le temps, sur le fait de faire des longs parcours avec justement, comme tu disais, parfois des moments où c'est un peu délicat et quand vous avez quelqu'un à côté de vous. Moi, j'avais perdu 14 kilos, mais je marchais quand même très, très bien et très, très vite. Et lui, il avait beaucoup plus de difficultés. Il perdait la vue et donc il avait une certaine lenteur. Et l'idée, c'était d'être ensemble et de prendre soin de l'autre. Il prenait autant soin de moi que je prenais soin de lui. Et c'était ça qui était fantastique dans cette première rencontre sur le chemin. Et c'est aussi le fait d'avoir marché une journée et demie, et puis sur les 15 jours moi, que j'ai pu faire, et notamment les 6 premiers jours où on s'est perdu et on s'est retrouvé. Et ça a été fantastique.
C'est-à-dire que tu l'as retrouvé sur une étape après que tu,
oui,
où tu l'avais
perdu. Au bout d'une semaine à Conques, à l'arrivée à Conques, qui était pour moi une arrivée très symbolique, eh bien, on s'est retrouvés dans le même lieu d'hébergement avec Yves, Daniel, il s'appelait Daniel, et lui allait jusqu'au bout, hein, il voulait aller jusqu'au bout. Moi, je savais que je ne ferais que 300 kilomètres, mais c'était incroyable. Parce que dès le départ, ben, on attend. Enfin, il faut rien attendre du chemin, et si on n'attend rien, il vous apporte énormément.
C'est une leçon de vie, en quelque sorte.
Ah ben oui, c'est une leçon de vie.
Parce que finalement, dans la société, alors volontairement ou pas, on a toujours tendance à attendre quelqu'un, enfin quelqu'un ou même quelque chose de quelqu'un. Et finalement, là, on est dans un domaine où on se dit. On ne peut pas être déçu de ce qui va arriver puisque finalement, on n'attend rien et que c'est que, en fait, du bonus. Quoi.
C'est ça.
Et dans cet état d'esprit-là, parce que j'ai quand même envie de te demander, je pense que c'est la question que tout le monde a envie de poser, est-ce que tu t'es préparé physiquement à une épreuve comme ça? Est-ce que tu as déjà eu l'habitude de marcher, de faire, je ne sais pas, du marathon ou toute autre discipline sportive se rapportant à la marche?
Eh bien, oui, je me suis entraînée pendant... Plusieurs mois avant de partir, eh bien, j'habitais sur Bayeux, donc...
T'es normande, non ?
Oui, je suis normande d'adoption, mais donc ça fait bien longtemps que je vis en Normandie et que je crapahute en Normandie aussi. Et donc là, pour me préparer, alors si certains connaissent Bayeux, bien, Bayeux, il y a ce qu'on appelle le bypass, hein, qui est le premier périphérique... qui a été créé hein, en France. Donc le matin, très très tôt, je me levais en général, et c'est toujours un peu le cas, hein, je me réveille très très tôt, 5h30, 6h, un grand maximum. Et donc je prenais mes bâtons et hop, je faisais mes 6 km. Et puis le week-end, je faisais un aller-retour Port-en-Bessin, donc ce qui faisait à peu près 24 km chaque week-end. Donc j'ai fait ça pendant... du mois de janvier au mois de mai, quasiment toutes les semaines. Et quand c'était pas la marche, c'était le vélo, mais en règle générale, c'était la marche et quasiment tous les matins.
Et tu m'as expliqué qu'avant de commencer, tu étais dans le creux de la vague, on va dire, mentalement. Est-ce que tu as trouvé le salut que tu espérais?
Ah oui, oui. Alors, j'ai pas tout résolu. J'irais aujourd'hui... Oh, oui, oui. Aujourd'hui, c'était il y a 8 ans, et en 8 ans, il s'est encore passé beaucoup de choses qui m'a permis de grandir encore, parce que je crois qu'il faut une vie pour grandir et pour comprendre beaucoup de choses. Ça m'a considérablement relié à moi-même, en tout cas sur une petite partie de moi-même, pour aller encore plus loin.
Alors, pour continuer donc à tirer le fil de notre discussion. Tu crées à la suite donc de cette marche, hein, donc tu fais 300 km, c'est ça que
vous
expliquiez. On est en décembre 2015 et tu fondes donc cette association sur les pas de saut. Comment ça se passe au départ? Quel est le cheminement entre dire je vais fonder une association au départ? Parce qu'il faut être deux légalement pour fonder une association. Donc avec qui en fait tu te mets en binôme ou avec qui tu t'engages? C'est-à-dire, comment ça fonctionne?
Alors, quand je suis partie en mai 2015, je suis revenue mi-mai, comme je l'ai dit en introduction. Donc, j'étais partie avec ma valise. Et quand je suis revenue, ma maison était vendue. Des affaires dont je n'avais pas besoin, qui me reliaient au passé, étaient dans deux garages. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai eu l'idée de faire une vente de tout ce qui était dans ces deux garages pour la Fondation Maladies Rares. Comment je suis rentrée en relation avec la Fondation Maladies Rares, c'était assez rocambolesque, je pourrais dire. J'ai suivi mon intuition. Un jour, j'ai un copain qui vient, un couple de copains qui vient dîner chez moi, et puis lui, il était trailer, donc il me parle de trail, et moi, je reviens de mes 15 jours de randonnée. Et donc, pour moi, c'était aussi mon endurance, quoi. Et je n'avais jamais entendu ce mot-là. Donc, une fois qu'il était parti, je tape sur Internet « trail ». Et là, je tombe sur l'ultra-trail du Mont-Blanc. Et de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, je fouille sur le site internet et je vois le partenariat avec la Fondation Maladies Rares. Et je me dis, mais c'est ça que je veux faire pour les pas de saut. C'est pas de la course, c'est pas du challenge le premier arrivé, c'est arriver tous ensemble, être tous ensemble sur le chemin pour soutenir la recherche. Et ça a été ça mon idée, c'était de faire des pas de saut, une association normande bien solidaire. Saut, c'était Sophie, c'était mon blog à l'origine pour le chemin sur Saint-Jacques. C'est devenu Saut pour solidaire. Et donc, j'ai appelé Ouest-France, on a fait un article, j'ai fait cette vente. J'ai mis un message à l'Ultra Trail du Mont-Blanc en disant « Je veux être commissaire de course bénévole pour le prochain événement en 2015. » Et j'ai appelé la Fondation Maladies Rares en disant « Écoutez, soutenez-moi pour être commissaire de course et je vous remets ce chèque et ensemble, je souhaite monter ce projet avec vous. » Et en fait, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et donc, au mois d'août 2015, je suis partie une semaine avec mon sac à dos au pied du Mont-Blanc, à Chamonix. J'ai accompagné tous ces gens qui... Voilà, et j'ai vu ces gens qui venaient marcher pour soutenir la recherche. Je suis allée à leur rencontre. Ces trailers qui venaient pas que pour la compétition, mais qui venaient pour soutenir les autres. Et ça a été extrêmement puissant au niveau émotionnel. Et en septembre, je suis allée à Strasbourg, j'ai rencontré les chercheurs, et puis Audrey, qui était à l'époque la responsable Grand Ouest, avait réussi à motiver, et puis Ludovic, qui était directeur de la fondation à l'époque, on dit on y va, on lance avec toi ce projet. Et quand je suis rentrée, j'ai un ami, Nicolas La Perruque, qui me téléphone. Synchronicité absolument incroyable et qui me dit « J'ai 5 étudiants qui cherchent un projet solidaire à soutenir. »
Ouais, chouette. Et donc, c'est parti de là.
Et c'est parti de là.
Et la première marche, elle a eu lieu quand?
Et donc on a travaillé avec Margot, Ingrid, Julien et Victor. Et Victor, c'était formidable. Enfin, c'était formidable. J'ai été mais vraiment aux anges pendant 5 mois. Des amis sont venus m'aider à créer l'association. Le 7 décembre, on a créé l'association. Et la troisième semaine de mai, on a fait les 7 jours pour les 7000 maladies rares. Première opération. Et on a été reçus à l'hôtel de ville de Caen. On a remis ce qui a été le plus beau chèque qu'on ait jamais remis. 14 000 euros.
14 000 euros. Et sans transition, la dernière marche a eu lieu le 30 septembre dernier. Combien elle a rapporté, celle-ci?
Alors, celle-ci, elle est, en fait, elle se cumule sur l'année.
D'accord.
L'année n'est pas terminée. Et donc, à ce jour, je ne peux pas donner de compte.
D'accord. Je voudrais aborder une autre partie sur des aspects peut-être un peu plus techniques, si l'on peut dire, mais qui sont quand même importants dans le fonctionnement d'une association. Alors, on va pas citer de marque, parce qu'on n'a pas le droit, mais vous avez de nombreux partenaires, c'est ce que j'ai vu dans cette association, qui vous encouragent, qui vous font du sponsoring, qui vous financent aussi, j'imagine. Il y a combien de bénévoles aussi dans cette association? Comment ça fonctionne au jour d'aujourd'hui? Ça se passe comment?
Eh bien, on a en fait chaque année des inscrits, donc des fidèles qui sont là depuis 8 ans,
oui.
Et puis des nouveaux qui arrivent du sud de la France, qui arrivent de Paris, qui arrivent de Bretagne, qui viennent pour une fois parce que ce qu'il faut dire, c'est que on est parti des maladies rares, mais on a soutenu d'autres causes.
Lesquelles?
Alors, la deuxième année, c'était, on a parlé de la greffe et le don d'organes parce qu'il y avait le texte de loi en 2017 qui venait de sortir pour dire on est tous donneurs aujourd'hui et que si on veut pas l'être, il faut l'annoncer, il faut l'inscrire. Et du coup, ça nous reliait encore aux maladies rares. À ce moment-là, on a été sollicité par AVC Normandie pour faire l'opération en 2018. Donc, on a parlé à cette occasion, des accidents vasculaires cérébraux. Cette année 2018, il y a eu un article sur les problèmes d'obésité en Normandie, la nutrition. Et donc, ça a été notre sujet en 2019. En 2018, toujours, l'Institut de la Vision nous a téléphoné pour dire « Est-ce que vous pourriez pas faire une opération pour nous ?» Et donc, en 2020, on a monté une opération extraordinaire avec des conférences, avec des chercheurs internationaux, etc. Mais alors, malheureusement, le Covid est arrivé.
Justement, puisque on va en fait venir petit à petit à ce qui nous amènera pour 2024.
Mais...
En question ouverte, je voulais te demander, est-ce que donc, dans le prolongement de ce que tu nous dis là, est-ce que donc l'association est amenée à s'ouvrir encore plus dans son développement dans les prochaines années vers des thématiques qui ne sont pas forcément liées aux maladies rares?
Ah oui. Bah, de toute façon, les maladies rares, ça a été notre point de départ.
En fait, il y a volonté de s'élargir à toutes les problématiques liées à...
C'est ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi de toucher à des sujets de santé publique. Cette année, on est sur le thème du sommeil. On a fait la nutrition, c'est aussi un thème, et l'obésité, c'est un thème de santé publique. Il y a beaucoup de prévention à faire. Ce qui nous relie à l'AVC, ce qui fait que elles sont. En fait, ce qu'on avait compris quand on a fait la première marche sur les maladies rares, c'est que toute la recherche liée aux maladies rares permet de comprendre d'autres maladies aujourd'hui. Donc ça, on sait que il y a eu une avancée extraordinaire en un temps record grâce au génome, enfin grâce à tout ce qui a pu être fait.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les maladies rares sont tabous dans un certain sens? Ou est-ce qu'il n'y a pas, dans certains cas encore, de prise de conscience réelle de cette catégorie de maladies?
Ben, c'est-à-dire qu'en fait...
Si ça peut t'aider, je vais te donner un exemple simple. Je vais prendre le cas d'endométriose, qui touche aujourd'hui une femme sur dix. C'est pas une blague ce que je vais dire, moi-même ça m'a surpris quand je l'ai découvert. Ça a commencé à être étudié au programme de fac de médecine qu'en 2020. C'est-à-dire qu'avant, c'était totalement inexistant, programme de médecine, et ça veut dire que des gens n'y étaient pas formés parce qu'on considérait, ou parce qu'on considère quelque part toujours, que c'est des maladies de femmes, et que... De ce fait, et en plus d'être un rare, bon, j'ai même pas envie de dire rare en fait, de ce fait-là, ça ne méritait pas jusque-là d'être en fait mis dans le champ de l'étude, on va dire, du grand public de la médecine générale. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce qu'il manque aujourd'hui une prise de conscience pour accélérer des politiques publiques en la matière? Qu'est-ce qui manque en fait?
Pour l'association sur les pas de saut, on a vécu des choses extraordinaires entre 2015 et 2019. 2020 est arrivé, le Covid, ça a coupé l'herbe sous le pied de beaucoup d'associations.
Bien sûr.
Ça a créé des traumatismes incroyables pour des familles qui ont perdu des proches. Dans ce contexte sanitaire où la prévention était au summum, je dirais, de ce qu'on pouvait imaginer, enfin, ou pas imaginer d'ailleurs, ça nous a plus ou moins repliés sur nous d'une certaine partie, d'une certaine façon, et ouverts sur autre chose. Et puis, ça s'est arrêté, et aujourd'hui, on reprend nos modes de vie comme un peu comme avant. Dans un certain individualisme. Et nous, pour l'association, on le vit parce que on a perdu cet enthousiasme qu'on avait vécu avant. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'engouement pour l'association qu'on a.
Et comment on le retrouve?
Ben, juste pour finir par rapport à ta question.
Pas de souci.
C'est qu'en fait,
faut me le dire.
Moi, personnellement, j'ai le sentiment qu'on a basculé dans quelque chose qui est une espèce de protection, voilà, qui nous empêche de nous relier les uns aux autres. Or, les pas de saut, c'est ça, c'est d'être en lien avec ce qu'on peut apporter
aux autres. Une sorte de destructeur de l'individualisme.
J'aime pas trop ce mot destructeur parce que c'est violent, mais disons en tout cas,
Le fédérateur.
Oui, plutôt, voilà. On est vraiment... l'idée, c'est d'être porteur d'un message.
Vecteur de solidarité.
Voilà, exactement, voilà. Être vecteur de cette solidarité, porteur d'un message sur un thème, voilà, de santé publique, un thème plus ou moins important. C'est vrai qu'on peut... On a eu des demandes qui sont très focus sur... Avec des mamans qui sont venues me voir en disant, ben moi, mon petit-fils, mon fils a telle maladie et est-ce qu'on pourrait pas marcher pour cette maladie? Mais c'est vrai que c'est pas pour ne pas s'en occuper, mais c'est pour essayer de dire, ben voilà, il y a cette maladie, mais il y a peut-être d'autres maladies à relier à cette maladie qui touche peut-être une personne sur 3 millions,
ouais.
Hein, et qu'il faut pas oublier, mais toute la recherche, et on l'a compris même avec le sommeil, on a compris que bien dormir, c'est peut-être trouver des traitements pour Alzheimer.
Ouais, mais je pense voilà. que tu as rappelé, et c'est pour ça que je me permets de redire et de redire ce que tu as dit tout à l'heure, qui est très intéressant, quand on fait une recherche sur une maladie rare, ça aboutit très souvent sur des recherches qui peuvent concerner des maladies beaucoup plus communes.
C'est ça.
Et c'est ça qu'il faut dire.
C'est ça.
Et c'est ça qui est important.
C'est ça. Ça ouvre des portes de voilà de c'est moi je suis pas chercheuse. Un chercheur pourrait mieux en parler que moi, hein, mais j'imagine que c'est de trouver ce qui l'attend pas. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ne rien attendre. Et nous pareil, nous avec les pas de saut, on a vécu des choses extraordinaires de gens, ne serait-ce que des témoignages de gens qui disaient, mais c'était tabou d'en parler chez nous. Et du coup, ben, le fait d'avoir marché, moi, j'ai pu en parler ouvertement. J'ai pu parler de ma maladie avec mes proches, ou j'ai pu parler de la maladie de mon père, voilà, autrement, ou j'ai pu mieux comprendre ce qui, voilà, ça, c'est ça, je crois que, c'est d'être comment oui c'est
de créer du lien
oui et que de créer ce lien ça nous rend plus humains en fait.
Bien sûr. Mais justement dans le prolongement en fait et avant de donner la parole à Ingrid ce que j'aimerais en fait te dire c'est qu'il y a beaucoup de familles de personnes en situation de handicap qui les aient une maladie rare ou non qui se sentent invisibilisés, disons-nous, et se sentent parfois démunis par rapport au champ d'action qu'ils s'imaginent qu'ils n'ont pas, en fait. Et quel message aurais-tu envie de dire à des personnes qui, par exemple, auraient envie de te rejoindre, de dire qu'il y a quelque chose à faire, qu'on n'est pas obligé de forcément rester chez soi, on peut faire quelque chose d'humain et de fédérateur?
Bien, je crois que oui, c'est ça, c'est que l'isolement, c'est la pire des choses. Et que si on arrive, nous, à être reconnus en tant qu'association sur ce qu'on aime faire, mais avec passion, moi, personnellement, j'aime la marche passionnément et on a toujours souhaité que tout le monde puisse participer. On a eu une enfant handicapée, on a eu... Qui n'a fait que quelques pas. On a eu une personne qui avait un AVC et qui ne pouvait pas marcher et qui a fait 5 kilomètres avec nous. On en a eu une autre qui a réussi à faire 12 kilomètres avec nous. On a eu un opéré du cœur de plus de 80 ans qui a fait 35 kilomètres avec nous. Donc, et ces personnes-là sont porteurs de messages. Et si on arrive à donner cette confiance, à apporter cette confiance aux gens en disant, bah, venez nous rejoindre. Franchissez notre porte, venez avec nous et on l'a fait à la colline aux oiseaux quand on a fait le diabète. On avait des personnes voilà qui ont été accompagnées, qui étaient là avec leur éducateur thérapeutique et qu'on fait ces quelques pas. Et ce lien de fait de partager après un moment de convivialité quand on faisait les 7 jours d'affilée où on pouvait dormir ensemble, où on a des hébergements qui nous sont offerts par les communes qui nous accueillent et tous ces moments qui sont uniques, qui sont extrêmement forts. On quittait, quittait ces 7 jours, beaucoup avaient la larme à l'œil. Mais on en sort grandi. Et cette confiance qu'on peut aller vers l'autre. Je crois que c'est ça, c'est de se dire qu'on peut aller vers l'autre et qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous tend la main.
Je voudrais revenir sur ce que tu disais juste avant sur la période Covid qui a été très particulière, d'ailleurs pour tout le monde, tout le monde dans le pays et d'ailleurs tout le monde dans le monde entier. Comment on sort de cette période de torpeur où on le dit, on a plutôt tendance à se recentrer sur soi-même, sur son cocon individuellement, et que ce n'était pas la période la plus compliquée. Comment on sort de ça et on relance la machine?
Bien, on se réinvente. On se réinvente. On a fait le choix, là, justement, de découper la semaine de 7 jours, parce que certains me disaient, c'est peut-être trop compliqué, c'est peut-être trop long de faire des journées de parfois de 30 kilomètres, de trouver l'hébergement, donc on s'est réinventé. Puis cette année, en 2023, on a décidé de faire 5 week-ends pour toucher les 5 départements de la Normandie. Parce que notre ambition, parce qu'on en a quand même une, c'est de se dire, on est une association normande et que on veut être reconnu en Normandie, connu en Normandie et reconnu à l'extérieur de la Normandie pour amener des gens, comme on les a déjà eus, ces personnes qui sont venues d'ailleurs. On veut qu'ils viennent découvrir aussi notre patrimoine naturel normand.
Notre beau patrimoine normand que l'on défend volontiers dans le podcast normand.
C'est ça.
Et on est ravis que tu nous en parles à ce titre-là. Bien, maintenant, je vais... Parce qu'il y a quand même des gens qui t'entourent. Et donc, ça serait totalement injuste que je n'en parle pas puisqu'on a quelqu'un qui est là. Bonjour Ingrid Trempin.
Bonjour Ryan.
Ça fait 7 ans que tu accompagnes Sophie au sein de cette association, c'est ça?
Alors, je l'ai accompagnée dans les tout débuts, dans la création. Elle en parlait tout à l'heure, Sophie, en tant qu'étudiante. C'était un de nos gros projets d'études. La création autour de l'association, sa communication, enfin tout le plan de communication, tout ce qui est graphisme, le logo, on a contribué à tout ça. Donc j'étais là dans les débuts, on ne s'est jamais au final perdu de vue et je suis de retour réellement que depuis 2023.
Mais qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre Sophie et l'association sur les pas de saut?
Au tout départ,
bien sûr.
Alors, moi, j'en ai entendu parler par deux des étudiants de mon groupe. On était tout de suite, quand on s'est réunis avec notre groupe d'étudiants, il y avait plein de dynamisme, plein d'idées qui fusaient dès le départ autour de ça. Et ce qui me plaisait, moi, personnellement, c'était le rapport avec l'humain qu'avait Sophie, le projet qu'elle soutenait, les causes à défendre, en fait, qui tournaient autour de la solidarité, de l'humain, de la santé. Le fait de sensibiliser autrui, ça me touchait particulièrement.
Ouais, t'enchaîner avec la question que j'allais te poser, c'est des domaines qui sont ancrés en toi, qui te touchent particulièrement, comme tu le dis.
Qui me touchent particulièrement, oui, la santé en général, l'humain me touche.
Et donc, quel beau parcours depuis, puisque finalement, vous ne vous êtes pas perdu de vue. C'est aussi une amitié qui est née, j'imagine, vis-à-vis de ça.
Oui, moi, je peux le dire, si Sophie est d'accord, oui, à partir du moment où une personne me touche de l'intérieur, oui, c'est... Sophie, pour moi, elle a un sacré charisme et elle a une sacrée histoire que je connais un peu plus personnellement. Et du coup, ça me parle et c'est son charisme qui me parle.
Comment tu décrirais ton engagement? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Comment ça se passe pour toi?
Là, récemment,
récemment, puisque tu dis que tu es revenu, donc j'imagine qu'il y a une période où tu...
Il y a eu les études, la vie personnelle, la vie professionnelle. Ouais,
comment on concilie, en fait, cet engagement avec la vie personnelle? C'est quand même un sacré engagement de société.
Oui, mais là, j'apporte mon soutien au niveau de la communication, les réseaux sociaux, je propose des nouvelles choses. Là, prochainement, d'ici le 10 décembre, ce sera déjà publié, mais mon idée, c'était de proposer du contenu vidéo, du contenu plus attractif, et puis toucher plusieurs tranches d'âge avec des choses actuelles. Enfin, on a du contenu sur le site, on peut avoir du contenu presse avec les relations presse, mais j'aime bien le côté interview, vidéo.
En fait, tu veux me voler mon job, quoi.
Oui, tout à fait.
merci beaucoup. Au niveau retombées presse, c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné. La vie en fait médiatique compte beaucoup hein, dans le monde actuel, chez tout le monde. Il y a eu pas mal de retombées presse. Comment ça a été accueilli globalement?
Oui, il est clair que jusqu'en 2019, on a eu une très belle couverture médiatique. France 3, France Bleu, Ouest France, La Manche Libre, enfin, carnet de campagne avec Philippe Bertrand en 2019, qui nous a énormément, énormément apporté et qui nous avait d'ailleurs redonné l'antenne pour le diabète l'année dernière. Ça, c'était vraiment... de toute façon, sans cette communication, on a parlé des sponsors, on a parlé des nos partenaires aujourd'hui qui sont des partenaires de la santé, et pas que. Et la médiatisation, plus elle sera forte, et ce qu'on est en train de faire ensemble, et ton travail, toi, ne peut être qu'un plus pour nous, parce que on a besoin de ça, et notre souhait est de pas être catalogué comme une association de randonneurs, de clubs de rando, un peu senior, voilà. On a vraiment l'envie que ce soit très intergénérationnel. On a toujours eu tous les âges sur les chemins. Et donc, on a vraiment besoin aussi d'avoir des forces vives que toi tu représentes. Voilà, ton auditoire il est jeune, et nous on a besoin de cette jeunesse là aujourd'hui.
Je me permets pour une fois, ce que je fais rarement dans un épisode, mais de prendre un peu la parole moi-même justement pour rebondir sur ce que tu disais. Ce n'est pas une question. Je voulais en profiter par rapport à ce que tu viens de dire de remercier nos camarades de la presse, que ce soit France 3 Normandie, que ce soit La Manche Libre, que ce soit Ouest France, pour leur soutien et le soutien qu'ils donnent avec le temps d'antenne ou l'écriture d'articles qu'ils peuvent faire sur ce genre de sujet, parce que comme tu l'as dit, et on va terminer presque là-dessus, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, car c'est un sujet qui est à la peine hein, dans les médias, notamment nationaux, on n'en parle quasiment pas, en fait. L'idée de départ du podcast normand, il est né justement parce que j'avais essayé d'interpeller des candidats à la présidentielle de 2022, tentatives qui se sont révélées infructueuses en ma seule personne, et donc étant, pour rester poli, frustré, même si c'était un peu plus que ça, de cette situation, je me suis dit, mais et qu'est-ce que je peux faire, moi, pour qu'il y ait plus, en fait, d'éclairage, un focus plus important sur ces thématiques? Parce que, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit plus ce que vous faites. Et donc, j'avais décidé de prendre ma part, et je remercie vraiment les médias régionaux, où j'ai moi-même, d'ailleurs, été reçu pour parler du podcast normand et de... mon travail, en fait, mon travail, pourquoi je dis mon travail? Parce que mon travail, c'est aussi le vôtre. C'est-à-dire que sans des associations qui font ce que tu fais et le font avec brio, sans des personnes normandes inspirantes qui travaillent au quotidien pour la solidarité et le bien d'autrui, en fait, je fais rien derrière. je fais rien et j'interroge personne, en fait. Et donc, merci à ces partenaires, à ces médias, agences de presse, journaux, journalistes, de faire ce travail dont on a plus que jamais besoin. Il me reste une seule question, parce que sinon on va dépasser un peu le temps. Oui, il reste 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sophie? Et d'ailleurs, Ingrid aussi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette association, pour l'année 2024 qui va s'ouvrir?
Eh bien, l'année 2024 va être sur le thème de la santé mentale, qui est un thème de santé publique. On va marcher aux côtés d'une équipe autour d'Alice Lanieps, qui est maître de conférence à l'Université de Rouen et qui est neuropsychologue, qui a convaincu aussi ses étudiants à rejoindre le projet de construction de, voilà, de ces 5 week-ends en Normandie. Et donc, ben, ce qu'on peut souhaiter, ce qu'on peut se souhaiter à nous-mêmes, mais ce qu'on souhaite surtout pour l'association et ceux qui viendront nous accompagner, eh bien, c'est d'avoir justement une jeunesse active pour venir marcher avec nous. Nous, moi, vraiment, ce serait un rêve fantastique de comptabiliser beaucoup de, voilà, beaucoup de jeunes. On va parler d'addiction, parce que addiction et santé mentale, ben, il y a énormément de choses à dire, et c'est tout le travail de recherche d'Alice. Donc, on aura bien l'occasion d'en reparler prochainement avec elle et de tout le programme qu'on va construire avec l'équipe, avec Ingrid. Et c'est ça, voilà. Et qu'on soit vraiment, comme tu disais, oui, qu'on soit vraiment reconnu régionalement. Et je pense qu'on est en train de, voilà, on est sur le bon chemin. Tout simplement.
Eh bien, merci beaucoup, Sophie Champeau. Merci beaucoup, Ingrid Prampin, de m'avoir reçu et d'avoir permis cet échange. Je vous souhaite longue vie à l'association sur les pas de saut, et je vous souhaite de marcher vers vos rêves. Je crois que c'est le plus beau message qu'on puisse vous adresser. Tous mes voeux de bonheur et de réussite.
Merci, Brian. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'association sur le site internet sur lespasdesaut.com, tout attaché. Quant à nous, c'est tout pour cette année, et on se retrouvera l'année prochaine pour de nouveaux épisodes, de nouvelles aventures. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'être heureux, et prenez soin de vous et de vos familles. À l'année prochaine sur le podcast Normand.